Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, Mars, la planète rouge, fascine toujours autant depuis sa découverte à l'Antiquité. Pourquoi ? Eh bien parce que Mars a par le passé connu des conditions assez proches de celles régnant sur Terre, d'où la naissance dans l'esprit imaginatif des auteurs de science-fiction de l'existence de Martiens. Mais y a-t-il un peu de vrai dans cette extrapolation ? C'est ce à quoi tentent de répondre les astronomes et exobiologistes depuis plusieurs années. Plusieurs robots ont déjà parcouru le sol martien, des sondes ont scruté l'atmosphère de Mars, mais une nouvelle mission risque enfin cette fois-ci de percer une bonne partie des mystères de la planète rouge. Il s'agit de la mission de la NASA Mars Science Laboratory qui doit envoyer en novembre 2011 un rover, une astromobile en français, et nous sommes sous l'égide de l'Académie française, un rover encore plus élaboré que les précédents qui répond au nom de Curiosity. Les relevés de Curiosity seront cruciaux pour l'avenir de la recherche spatiale concernant Mars car il a pour objectif, entre autres, de déterminer si la vie a pu exister sur Mars et également préparer l'exploration humaine de la planète rouge à plus long terme. Alors, pour parler avec nous de cette nouvelle mission et de ce qu'elle laisse entrevoir comme enjeu scientifique et technologique, deux invités sont en studio avec nous, Jean-Pierre Bibring et Jean-Loup Puget. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Jean-Pierre Bibring, vous êtes professeur à l'Université Paris-Sud, Institut d'astrophysique spatiale. Vous avez notamment travaillé sur les missions Vénus Express, Rosetta et Mars Express de l'ESA, Agence spatiale européenne. Et Jean-Loup Puget, vous êtes astrophysicien, directeur de recherche au CNRS, ancien directeur de l'Institut d'astrophysique spatiale d'Orsay et membre de l'Académie des sciences. Nos auditeurs ont déjà eu le plaisir de vous entendre plusieurs fois sur l'antenne de Canal Académie. Alors, on observe en peu de temps une multiplication des missions autour de Mars, la mission américaine Mars Science Laboratory, dont c'est l'objet de notre émission ici, mais également Phobos Grunt, mission russe portant sur un des satellites naturels de Mars, Phobos, et puis également une mission chinoise dont on ne sait que peu de choses pour l'instant, et puis un programme de l'ESA, Agence Spatiale Européenne, Aurora, dont le lancement est prévu en 2016. Est-ce le hasard du calendrier ou y a-t-il vraiment des raisons plus profondes à cette multiplication de missions martiennes ? Jean-Pierre Bibring.
Non, il n'y a pas de hasard, bien sûr. Il se trouve que Mars et la Terre sont dans des positions favorables pour lancer depuis la Terre un engin vers Mars à peu près tous les 2 ans. Et c'est vrai que ça fait maintenant plus de 10 ans que tous ces créneaux sont utilisés pour aller observer Mars et essayer de comprendre ce qu'a pu être son histoire. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est vrai que ce qui a changé depuis peu, c'est qu'on est à peu près convaincu que Mars, dans sa prime jeunesse, avait peut-être héberger des conditions, ou en tout cas, sinon favorables à la vie, en tout cas qui auraient pu le permettre, puisqu'on est à peu près convaincu maintenant qu'il y avait de l'eau liquide à la surface, pérenne, pendant de longues durées. Et la question maintenant est de savoir si, toutes choses égales par ailleurs, dans cette eau, il aurait pu y avoir la même chose que sur Terre à cette même époque, le passage de l'organique au vivant.
Et donc, on va y revenir au cours de cette émission. Jean-Loup Puget, quel est votre sentiment justement sur cette multiplication de projets ?
La vie extraterrestre est évidemment une question qui passionne non seulement les astronomes et les planétologues, mais l'ensemble, je crois, des citoyens et de l'humanité depuis longtemps, en fait. Elle est abordée par plusieurs biais. On peut l'aborder en se demandant d'où venait la matière organique, on pourra en reparler, mais aussi, effectivement, savoir s'il y a des planètes. Donc, la recherche des planètes extrasolaires a été une activité qui a débuté malheureusement tard, parce qu'on a eu beaucoup de mal à détecter les premières planètes autour des autres étoiles, mais maintenant, c'est devenu une activité importante de l'astronomie, et on en a beaucoup. Néanmoins, comme il y a eu vie sur Terre, il est à peu près évident qu'il faut d'abord chercher dans le système solaire, et en particulier sur la planète Mars, qui est celle qui est la plus susceptible d'avoir développé de la vie, à peu près dans les mêmes circonstances. Et donc, c'est évidemment une justification qui suffit largement à elle-même.
Donc, effectivement, c'est une des questions qui revient régulièrement, les conditions nécessaires à la vie. Jean-Pierre Bibring, je me retourne vers vous. L'eau sous forme liquide a certainement existé sur Mars. Aujourd'hui, elle ne peut plus exister parce qu'en fait, l'atmosphère est trop faible et donc le liquide s'évaporerait. Il ne pourrait pas rester sur Mars. Est-ce à dire que justement, Curiosity va rechercher des traces fossiles ou peut-être un peu plus au niveau des traces de vie?
Non, dans un premier temps, déjà, si on trouvait des fossiles qui démontrent qu'effectivement, il y a pu y avoir de l'eau liquide et qu'il est suffit qu'il y ait de l'eau liquide pour qu'avec du carbone et du phosphore, on ait pu constituer des êtres vivants, ça serait déjà une découverte absolument fondamentale. Ce qui est nouveau, c'est effectivement qu'en même temps qu'on s'aperçoit que le fait que la Terre ait pu maintenir des conditions qui permettent à l'eau d'être restée stable à l'état liquide depuis plus de 4 milliards d'années, ce n'est que sur Terre qu'on trouve ça. Et la question est de savoir s'il a pu y avoir ailleurs que sur Terre, dans le passé, des conditions semblables. Il semble que Mars puisse être le seul candidat dans le système solaire. Et ce qui est nouveau, c'est qu'on a mis en évidence des terrains qui ont préservé jusqu'à aujourd'hui les propriétés qui auraient pu être acquises à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on sait où aller maintenant pour aller chercher des échantillons qui réellement ont vu, probablement non altérés, ce qui s'est passé il y a plus de 4 milliards d'années. Et c'est ça que va faire curiosité. C'est aller dans les endroits que l'on a identifiés comme les plus favorables pour avoir été les témoins de cette éclosion du vivant, pour autant qu'il ait eu lieu. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va le trouver, bien sûr. Mais pour autant que ça s'est passé, on est à peu près convaincu que maintenant, avec cette mission, puis éventuellement la mission de l'ESA qui suivra dans quelques années, comme vous l'avez dit, on pourrait répondre à cette question si, un, il y a bien eu de l'eau liquide, et deux, si dans cette eau liquide, à l'échelle des grains eux-mêmes, il a pu y avoir des formes vivantes qui sont apparues.
Et alors, parmi ces traces potentielles d'eau, ces fameux chenaux, c'est qui existent sur Mars, est-ce qu'aujourd'hui, ou plus tard, grâce à cette mission, on arrivera à déterminer si l'existence de ces chenaux prouve justement le passage de l'eau dans des fleuves ou des rivières sur Mars?
Oui, mais quelque part, ce n'est pas le plus important. Parce que les chenaux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que de l'eau a coulé, mais que de l'eau coule ne veut pas forcément dire, comme c'est le cas sur Terre, qu'ils ont alimenté des océans pérennes. Ce qu'on a montré, justement, c'est que par-delà l'existence de chenaux, il y a des minéraux qui attestent du fait qu'il y a eu de l'eau liquide, alors même que peut-être ces chenaux ne l'attestent pas. Pour fabriquer un minéral hydraté comme une argile, il faut que des roches barbotent dans de l'eau très longtemps. Et c'est ça qu'on a montré, c'est qu'il y a eu à la surface de Mars, très tôt dans son histoire, des conditions qui ont permis à des roches volcaniques de barboter dans de l'eau. Et on sait que dans ces argiles, on a jusqu'à aujourd'hui préservé les conditions d'hydratation de cette époque-là, beaucoup mieux que dans des chenaux. Donc on ne va pas aller vers les chenaux, on va vraiment aller dans des endroits qui, dans la minéralogie, démontrent, vraisemblablement en tout cas, que de l'eau a pu être présente. Et à l'échelle de ces échantillons maintenant, on va savoir si dans des pores qui sont éventuellement possibles dans les pores elles-mêmes de ces roches, il a pu y avoir possibilité de croissance de macromolécules organiques.
Alors, parmi les autres objectifs très ambitieux de Curiosity à terme, c'est l'exploration humaine de la planète rouge. Est-ce qu'on est vraiment dans l'extrapolation, Jean-Loup Puget, ou est-ce que vraiment c'est l'étape à venir?
Alors, est-ce que c'est l'étape à venir pour l'investigation scientifique des questions dont on débattait ici? C'est pas évident. Ou en tout cas, c'est pas évident à court terme. C'est parce qu'on pensera à Jean-Pierre Bibring, mais le coût et la difficulté d'envoyer des hommes sur la planète Mars est considérable. Et donc, dans un premier temps, l'exploration de Mars humaine relève plutôt de ce qui a été l'exploration par les humains de la planète Terre, y compris dans les régions les plus inhospitalières, donc pas forcément avec des objectifs bien définis, les pôles, par exemple. Donc je crois que la justification pour développer un programme de vol habité vers Mars relève plutôt de cette logique, et puis à terme, peut-être à ce moment-là, elle permettra une exploration plus détaillée. Mais la réponse dans les 15 ou 20 ans à venir, ou la non-réponse, enfin les réponses négatives qu'on pourrait avoir sur les questions précédentes, c'est plutôt à mon avis les sondes automatiques qui vont les amener.
Jean-Claude Ribéry, sur cette question.
Je pense aussi qu'il ne faut pas justifier les programmes scientifiques actuels automatiques comme simplement précurseurs de l'homme sur Mars. Je crois qu'il est assez facile de montrer que ce que des robots pourraient faire maintenant et vont faire dans les 10, 15, 20 prochaines années, on n'a pas besoin de l'homme pour cela. Les robots le feront très bien. Envoyer des hommes est tellement complexe, on n'est même pas sûr que ce soit faisable. Il faut bien réaliser qu'actuellement, un aller-retour, c'est deux ans. On ne sait pas faire vivre actuellement un homme dans l'espace deux ans, avec tous les autres problèmes que cela peut poser de vie en commun si longtemps, ce qui ne s'est jamais fait réellement sur Terre. Donc, il y a de tels problèmes que, un, ce n'est probablement pas réaliste aux échelles de temps qu'on envisage actuellement dans les décennies qui viennent, mais en plus, du point de vue scientifique, il n'y a rien qui le justifie encore. Il n'est pas pour dire, bien sûr, si d'ici 15-20 ans, par les robots, on pouvait démontrer que la vie a réellement démarré sur Mars, qu'on l'ait identifié, et qu'on ait même identifié des endroits où éventuellement dans le sous-sol martien, il y a de la vie qui actuellement se développe parce qu'il y aurait des niches souterraines où la chose se ferait, peut-être que ça justifierait qu'un programme scientifique ambitieux se le fasse, mais on en est encore très loin, et je crois que le programme robotique que l'on met sur pied actuellement se suffit à lui-même.
Et qui serait, j'imagine, une collaboration internationale de par l'aspect financier qui nécessite le rapatriement des fonds.
Mais ça va par-delà même l'aspect financier. Vous savez, la coopération internationale ne se justifie pas simplement parce que ça coûte cher et qu'il faut le faire ensemble. Il y a bien sûr cet aspect-là. Mais la coopération se justifie par bien d'autres choses. C'est qu'à ce niveau d'aventure humaine, c'est vraiment une aventure de la planète Terre qu'il faut faire pour savoir si la question de savoir s'il y a de la vie ailleurs ne devrait intéresser pas seulement les nations techniquement capables d'envoyer des gens dans l'espace actuellement, mais un très grand nombre de gens qui sont intéressés à la recherche fondamentale. Et donc cette coopération est nécessaire, quand bien même elle ne réduirait pas les coûts.
Alors, il est dit que la mission Mars Science Laboratory, qui donc devrait partir en novembre 2011, constituerait la mission interplanétaire la plus ambitieuse de la décennie pour la NASA. C'est un coup de publicité ou vraiment c'est le cas?
C'est difficile de comparer les missions en elles-mêmes. Quand Kennedy a décidé le programme Apollo, c'était probablement le plus ambitieux de l'époque et je crois que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas fait plus ambitieux que cela. Quand la NASA, dans les années 70, a envoyé le programme Voyager avec deux sondes pour aller très loin dans le système solaire, c'était incroyablement ambitieux. Il a fallu faire des systèmes de navigation et des systèmes de propulsion énergétique à base de plutonium, ce qui ne s'était jamais fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à l'exploration martienne maintenant, si on revient à cela, Curiosity sera de loin l'engin le plus complexe qu'on aura jamais envoyé. C'est un engin qui fait presque une tonne, qui va avoir une capacité de se mouvoir pendant plus de 2 ans sur des dizaines de kilomètres en emportant plus de 100 kilos d'instruments. Ça ne s'est réellement jamais fait. Été comme hiver, il pourra le faire parce qu'il aura une propulsion qui ne sera pas à ce moment-là mue par de l'énergie solaire, mais par des éléments radioactifs. Donc, c'est vrai que techniquement, on n'a jamais été à ce niveau de développement. Donc, cela est vrai, mais il faut aussi le ramener à l'ensemble des progrès technologiques qui ont été faits depuis 10-20 ans. Et encore une fois, je pense que ce que certains ont fait il y a 20 ou 30 ans était aussi comparable en défi technologique par rapport à ce qui se fait. Je vais citer juste un exemple. Dans les années 70, les Soviétiques ont envoyé des sondes qui sont posées sur Vénus, alors qu'il fait une pression 100 fois plus forte que sur Terre, avec une température de 600 degrés. Même les métaux fondent en quelques dizaines de minutes. Et ils ont été capables d'opérer à la surface de cette planète et en quelques minutes avoir accès à des mesures qui paraissent absolument fantastiques. Donc, pour l'époque, et je pense jusqu'à aujourd'hui, ce qui a été fait à ce moment-là, je vous ai dit, mais par exemple, les missions Viking, les missions Voyager ou les missions Venera soviétiques étaient elles-mêmes des défis remarquables. Mais c'est vrai que par rapport à l'exploration martienne, Curiosity va constituer un saut quantitatif et qualitatif absolument remarquable.
Et un défi aussi, j'imagine, sur l'aspect de l'équipement scientifique, Jean-Loup Puget, il y a des caméras, des laboratoires embarqués.
Je crois que Jean-Pierre est mieux à même de répondre à cette question.
Jean-Pierre Bivring.
Oui, pour la première fois, on va embarquer des instruments qui sont d'une précision de détail, d'une capacité d'analyse qui est absolument inédite, effectivement. On va pour la première fois être capable de mesurer des choses qu'on n'a jamais pu faire avant. Donc bien sûr, c'est vrai que de mission en mission, on le fait. De ce point de vue-là, les Américains vont aussi franchir un seuil. Mais je crois qu'il est important de dire dans votre radio que s'il y a vraiment un domaine où les Européens et les Français en particulier peuvent vraiment dire qu'ils sont compétitifs, c'est dans le domaine de l'instrumentation embarquée. Et en particulier dans la mission européenne qui va suivre, il y aura des instruments miniaturisés d'une qualité qui n'est pas encore atteinte par les Américains sur leur sonde Curiosity. Donc, c'est vrai qu'il va y avoir des instruments remarquables sur Curiosity. Il ne faut pas penser que, alors que les Américains ont au niveau des systèmes la capacité de fabriquer avec Curiosity quelque chose qu'aucun autre pays n'a été capable de faire jusqu'à maintenant, au niveau des instruments, en revanche, ce qui s'est développé en Europe et en France en particulier est d'un niveau qui est inégalé et même inégalé par rapport aux États-Unis.
Jean-Loup Puget.
Oui, par exemple, on peut donner des exemples et je vais les donner parce que mon collègue ne le dira pas forcément parce qu'il était très impliqué dedans, mais ce qui est sur la sonde Rosetta, qui finalement est aussi une sonde et un défi technologique considérable qui a été engagé par l'Europe, la sonde qui va se poser sur une comète très loin de la Terre, puisque ça va être typiquement à la distance de Jupiter, va aller se poser et va sonder, va remonter des échantillons à l'intérieur et les analyser avec, par exemple, des spectromètres infrarouges comme celui qui a été construit à l'Institut d'astrophysique spatiale par l'équipe de Jean-Pierre. Donc, effectivement, de ce point de vue-là, la technologie instrumentale a progressé et elle progresse dans chacune de ses missions, en fait. De ce point de vue-là, c'est un progrès relativement, non pas continu, puisque ces missions ne sont pas faites tous les ans, mais enfin, relativement continu.
Et alors, justement, vous vouliez rajouter un élément.
Juste un point, peut-être, c'est que si Curiosity va être une mission tellement remarquable, peut-être, au niveau de ce qu'elle va trouver, c'est justement parce que pour la première fois, elle ira dans des terrains qui ont été identifiés comme à ce point importants, non pas par des instruments américains, mais justement par des instruments européens qui sont sur une mission orbitale qui s'appelle Mars Express, auquel la France a fortement contribué. Je pense que le succès de cette mission-là, qui est essentiellement américaine, quelque part, on le devra à ce que l'Europe aura emmagasiné et été capable de trouver dans les années précédentes. S'il n'y avait pas eu Mars Express, Curiosité serait incapable d'aller dans les terrains les plus favorables pour éventuellement trouver des fossiles de vie organique.
Donc on comprend bien la continuité de mission en mission. Alors justement, ce rover va fonctionner, vous avez dit, pendant 2 ans. On va rouler, faire une vingtaine de kilomètres. Que va-t-il devenir à la fin de ces 2 ans, ce rover ?
Si effectivement il ne vit que 2 ans, vous savez que chaque fois qu'on lance quelque chose, on a toujours l'espoir que ça vit plus longtemps. Il faut voir que il y a actuellement encore à la surface de Mars un robot qui s'appelle Opportunité, qui a été lancé en 2003, qui est en opération depuis 2004, qui devait travailler pendant 6 mois et qui a travaillé pendant donc 8 ans. Vous voyez, on espère bien sûr que Curiosité pourra travailler au-delà des 2 ans. Mais quand bien même il ne resterait que 2 ans parce qu'il aurait des ennuis techniques, et c'est en principe suffisant pour qu'il fasse des découvertes majeures, il va mourir de sa belle mort comme sont morts tous les engins qui ont été posés à la surface de Mars. Ils vont rester pour toujours, on peut dire, à la surface de Mars. Vous savez qu'il y a quelquefois des missions qui vont dans des endroits où on récupère des bouts des missions précédentes. Ça s'est fait sur la Lune, par exemple. Ou sur la Lune, Apollo 12 s'est posé tout près d'un endroit où il y avait une sonde surveilleur qui s'était posée avant. Ils en ont d'ailleurs apporté un bout. Et il y a comme ça possibilité même de profiter d'une mission à l'autre. Et ce que va faire la mission ExoMars, donc de l'Agence spatiale européenne en 2018, si elle part, ça sera entre autres d'analyser des échantillons et d'en faire des petits paquets, des échantillons les plus intéressants, pour qu'éventuellement une mission suivante, qui serait probablement faite entre la NASA et l'Agence spatiale européenne, puisse aller les chercher et les rapporter sur Terre. C'est-à-dire qu'actuellement, non seulement ça peut se faire par hasard, mais on essaye même d'envisager systématiquement de préparer les échantillons suivants et les missions suivantes avec des rendez-vous donc qui se feront à la surface. Donc ça ne sera pas le cas de Curiosité. Curiosité n'a pas la possibilité d'emmagasiner des échantillons, mais très vraisemblablement, si Curiosité trouve des choses intéressantes dans les endroits où il va se poser maintenant, au même endroit se poseraient alors d'autres sondes dans l'avenir pour aller chercher les échantillons, pas forcément ceux que Curiosité aura analysés, mais identiques, c'est-à-dire dans le même environnement.
Donc on a bien compris, Curiosité, ces résultats sont donc très attendus. Il est donc primordial que ce robot, ce rover, arrive sans encombre sur Mars. Et je crois savoir que là aussi, les technologies sont nouvelles pour pouvoir permettre un atterrissage tout en douceur. Jean-Pierre Wimering.
Oui, c'est difficile de se poser sur une planète comme Mars parce qu'elle est relativement massive, même si elle est moins massive que la Terre, mais elle a très peu d'atmosphère. Donc vous êtes obligé de vous ralentir pour vous poser en douceur. Et pour se ralentir, en général, on fait ça avec des parachutes. Mais pour qu'il y ait des parachutes, il faut qu'il y ait une atmosphère suffisamment dense. Alors l'atmosphère de Mars est 100 fois plus ténue que celle de la Terre. Donc le ralentissement avec des parachutes est toujours très compliqué. Et la NASA, depuis qu'elle va sur Mars, a essayé différentes techniques. Les premiers Vikings, c'était avec des rétrofusées. Mais le problème des rétrofusées, c'est que vous polluez l'endroit où vous allez vous poser après. Donc c'est compliqué. Après, avec le Spirit Opportunity, c'était vraiment des airbags. Les premiers airbags des voitures ont servi ou ont été testés, à vrai dire, dans l'espace pour ce genre de choses. Donc on a utilisé ça. Cette fois-ci, c'est effectif. Vous avez raison, c'est un système tout nouveau qui va se faire. Et ils vont essayer de mettre ensemble toutes ces technologies, à la fois d'airbags, de parachutes et de rétrofusées, mais d'une manière suffisamment astucieuse pour qu'à l'endroit où finalement l'endroit rover va se poser, il n'y ait pas eu de contamination préalable. Donc c'est vrai que c'est, quand on voit les films de simulation de ça, ça paraît complètement rocambolesque, mais avec un peu de chance, ça va fonctionner. Il faut un petit peu de chance, effectivement, mais on nous assure que ça va fonctionner. On le saura en août 2012.
Alors Jean-Loup Puget, j'imagine que vous attendez beaucoup de cette mission.
Oui. Mais d'abord, pour juste remettre dans le contexte aussi plus général ces affaires d'atterrisseurs, je ne sais plus, l'Europe a fait une première assez extraordinaire avec la mission Huygens, Cassini-Huygens, puisque la sonde qui a été jusqu'au système de Saturne était américaine, mais que la sonde qui s'est posée sur le plus gros satellite de Saturne, Titan, où effectivement, il y a de la matière organique, et donc il y avait des questions liées aux questions sur l'origine de la vie aussi qui se posent, a été développée par l'Agence spatiale européenne et les équipes européennes, et a été aussi un grand succès. C'était une technologie, là aussi, complètement nouvelle et difficile. Donc effectivement, il y a cette continuité, et on voit qu'on explore cette question de l'apparition de la vie dans différents environnements, dans le système solaire, avec des endroits où on sait qu'il y a de la matière organique. La matière organique, il y a un certain temps, on aurait pensé qu'effectivement, ça allait assez naturellement avec, disons, une présence de biologie. On sait depuis longtemps que ce n'est pas le cas. Et qu'on sait qu'il y a de la matière organique dans les comètes. On sait qu'il y en a effectivement à la surface de Titan. Donc, c'est l'ensemble de ça qu'il va falloir analyser. Et effectivement, comme on le disait au départ, Mars va nous permettre de comparer l'apparition de la vie sur Terre telle qu'on se l'imagine, on connaît à peu près la période, etc., et de savoir si effectivement cette apparition est probable ou n'est pas probable. Si elle est probable, effectivement, les conditions sur Mars disent qu'il y a une chance non négligeable de trouver quelque chose. Donc Ça ne va pas apporter une réponse définitive, mais ça va certainement apporter une indication forte sur une question qui est essentielle.
Il y a aussi donc des missions qui portent sur Phobos, qui est un satellite naturel de Mars. En quoi ces missions peuvent apporter un complément, j'imagine, à ces recherches sur Mars, Jean-Pierre Bibring?
Alors, quand les gens ont envisagé d'aller sur Phobos, ce n'était pas avec l'idée vraiment de travailler sur Mars. C'est parce qu'on pensait que Phobos était un objet de toute autre nature, d'accord, un petit corps. Et simplement, il était accessible plus facilement et qu'on allait pouvoir se poser sur un tel. Mais c'est vrai, et vous avez tout à fait raison de poser la question dans le sens où vous le posez, c'est-à-dire que c'est assez récemment qu'on s'est aperçu qu'en allant sur Phobos, quelque part, on travaille aussi sur la problématique martienne. Je veux simplement le dire d'un mot. Vous savez que ça fait maintenant quand même une bonne dizaine d'années, une vingtaine presque, que l'on sait que notre propre Lune provient à une origine extraordinairement particulière, vu qu'elle procède probablement d'un choc que la Terre aurait eu très tôt dans son histoire par un objet d'ailleurs de la taille à peu près de Mars aujourd'hui, et que la Lune aurait été réaccrétée dans un disque de matière. Fait de ça, donc, quelque part, la Lune aussi a du matériau terrestre dedans, et travailler sur la Lune, avec toute l'importance que la Lune a pu avoir pour l'évolution de la Terre, c'est travailler sur toute cette histoire collisionnelle très complexe qui, en fait, gérait toute l'évolution des planètes. Et une grande partie des propriétés de la Terre, on les doit justement au fait qu'il y a eu cet impact très tôt dans l'histoire. Eh bien, il n'est pas exclu, et il est même assez probable, que Phobos procède du même mécanisme, et que Phobos aussi résulte d'un impact que Mars aurait eu très tôt dans son histoire, et que cette histoire d'impact, ce qu'on appelle des impacts géants, par des gros objets, par des gros bolides tôt dans l'histoire des planètes, a pu avoir une influence considérable sur l'évolution ultérieure de ces objets. On le sait donc pour la Terre, une grande partie des propriétés de la Terre, bien au-delà d'ailleurs de ce qu'on envisage maintenant, peut-être que le fait que la tectonique des plaques a pu s'initier avec de l'eau dans le magma procède de cet impact lui-même. Donc c'est énorme les effets qu'il a pu y avoir. Eh bien, quelle est la probabilité de ce genre de choses? Quelle est la géométrie des impacts? Dans quelle mesure il y a une diversification possible? Dans quelle mesure l'impact qui a donné naissance à la Lune, qui a géré ensuite le climat de la Terre, était de haute ou de faible probabilité? Aller sur Phobos, ça va nous apprendre ça quelque part, parce que si Phobos résulte de cela aussi, en allant dessus, on va l'analyser. Pour l'instant, à distance, c'est très difficile de l'évaluer. On va se poser dessus. Les Russes qui partent donc le 8 novembre, deux semaines avant MSL, pour aller se poser dessus, devraient aller se poser. Nous avons d'ailleurs contribué à cette expérience, puisque on a fourni des instruments qui vont, nous étant la France, qui vont contribuer à ces analyses. Et ensuite, cette sonde-là devrait même prélever des échantillons qui vont revenir sur Terre. C'est-à-dire que dans les 3-4 ans, on devrait avoir en laboratoire le couplage entre des analyses in situ qu'on va faire sur Phobos, des analyses en laboratoire, et savoir si oui ou non Phobos procède de cette évolution donc par choc très tôt dans l'histoire, et comprendre beaucoup mieux cette chose-là. Et on va peut-être s'apercevoir qu'en fait, l'ensemble du système solaire a vécu ça, que Mercure aussi a vécu cela, et que ce qu'est le système solaire aujourd'hui, contrairement à ce que l'on pensait il y a encore quelques années, résulte d'une histoire très perturbée, mais très intéressante au début, et ça va augmenter le côté spécifique et unique de la Terre, quelque part, qui a eu dans toute cette histoire complexe d'évolution, ce chemin qui a conduit au vivant aujourd'hui.
Alors voilà pour dire quelques mots sur ces missions à venir. Et il y a également donc cette mission de l'ESA, je ne sais pas si on peut commencer à en dire quelques mots, qui s'intitule pour l'instant Aurora, je ne sais pas si elle gardera ce nom-là.
Aurora est un programme, mais je crois que l'idéal, ça serait de refaire une émission sur le programme Aurora et sur ExoMars.
Ce qu'on pourrait avoir, par contre, noté dans la suite de ce que vient d'expliquer Jean-Pierre, c'est que dans le programme d'exploration du système solaire, et même plus largement le programme astrophysique, il y a une cohérence qui n'a pas été complètement pensée, mais où effectivement les astrophysiciens, les planétologues ont successivement plaidé pour un certain nombre de missions. Il y en a qui ont été sélectionnées, d'autres pas. Mais finalement, quand on regarde la cohérence qu'il va y avoir entre ce que Rosetta va nous dire sur la matière organique dans les comètes, on sait qu'il y a de la matière organique dans les comètes, l'étude fine de ce matériau va être possible avec les analyses faites par le lander de Rosetta. On sait aussi, par l'étude de la comète de Halley, on a découvert effectivement un certain nombre de molécules organiques qu'on retrouve dans les poussières interstellaires. Donc finalement, le système solaire primitif, il a été fabriqué pas seulement d'hydrogène, du gaz qui est entre les étoiles, mais aussi des poussières. Donc il y a déjà du matériau solide, il y a du matériau organique, il y a des glaces. Et donc là encore, il y a une filière où on a découvert avec une certaine surprise qu'une partie notable du carbone dans l'univers et dans le gaz interstellaire de notre galaxie est sous forme d'une très grosse molécule organique, par exemple. Donc, il y a beaucoup de pistes. Alors là, on parle effectivement de Mars, parce que l'actualité le dit, mais ça se replace dans un contexte qui, finalement, même si ça n'a pas été pensé complètement comme ça, est assez cohérent, je trouve. Et c'est assez satisfaisant.
Eh bien, je vous remercie à tous les deux d'être venus nous voir pour nous parler de Mars et des enjeux, des découvertes qui pourraient être faites prochainement. Et puis, alors, je vous dis à bientôt, dans quelques années, à ce moment-là, pour parler de la mission Aurora, mission européenne. Merci à tous les deux.
Oui,
vous
y arrivez
dernièrement.
Merci.